Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Jean-Marc Julesi, député En Marche de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Une actualité dense aujourd'hui, on parlera d'immigration, de social, de grève, sans oublier le local bien sûr, mais auparavant, Jean-Marc Julesi, et pardon auparavant, je ne vous ai pas dit bonjour, bonjour.
Bonjour à vous, grand merci pour l'invitation.
Auparavant, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Nous recevons aujourd'hui un vétéran du Parlement. Cela fait en effet, Jean-Marc Julesi, déjà plus de 31 millions de secondes que les électeurs de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, du côté de Salon-en-Provence, vous ont choisi pour député. Un plébiscite avec près de 59% des suffrages face à un candidat d'extrême droite. Comme le temps passe vite. Un an après votre triomphe, vous voilà déjà trentenaire. Bientôt aussi vieux qu'Emmanuel Macron lors de son élection. On en oublierait presque que vous êtes le Benjamin régional de nos 42 députés. Et c'est maintenant l'heure d'un premier bilan. Comme les routiers de la politique, vous alignez les chiffres. Plus de 30 questions écrites et orales au gouvernement, plus de 500 amendements signés, plus de 70 interventions dans l'hémicycle, mais aussi près de 200 rendez-vous dans votre permanence. Vous venez d'intégrer le petit cercle des Macron Boys à l'Assemblée, à la fois fidèle au président et parfois critique sur les choix ou la communication du gouvernement. Vous êtes ainsi l'un des très rares députés, une vingtaine, à avoir voté pour l'interdiction du glyphosate, en vain, car une majorité a décidé que nous devrions toujours, avec nos amis les abeilles, inhaler le pesticide. Et en même temps, vous approuvez de façon plus orthodoxe les grandes lignes de la révolution libérale en marche. Comme sur le pacte ferroviaire, où, à contrario du mouvement social, vous ne voyez que promesses d'innovation et de performance. Ou comme sur la croyance que le progrès social passe, avec la loi travail, par toujours plus de facilités offertes aux entreprises et à leurs propriétaires. L'entreprise, c'est votre rayon. Dans votre circonscription, vous en visitez une par mois. Après une double formation, comme ingénieur et commercial, et avant de présider dans le département le mouvement des jeunes avec Macron, votre carrière a débuté dans une société d'ingénierie et de conseil en innovation. Votre dernier job, avant de celui de député donc, était chef de projet dans une boîte spécialisée dans les dispositifs de protection contre les rayons ionisants. Se protéger des rayons ionisants. Voilà une compétence utile pour faire face aux bombardements d'attentes et de mécontentements auxquels les élus marcheurs vont devoir répondre.
Jean-Marc Julesi, une réaction à ce portrait à la sauce ravie?
Moi, je dirais que c'est un portrait qui est juste. Juste un, peut-être un point. Je ne considère pas mon mandat de député comme un job. C'est une mission, une vocation. Une vocation, vous l'avez dit, ça fait maintenant un an où je prends beaucoup de plaisir. Plaisir à la fois en circonscription et à l'échelle nationale.
Une vocation éphémère, vous n'êtes pas pour le cumul des mandats, ni pour la longévité à outrance?
Je ne serai que de passage.
Voilà. Le président de la République a indiqué que la France accueillerait finalement les migrants de l'Aquarius qui le souhaitent, s'ils répondent aux critères. Est-ce que cette annonce, Jean-Marc Julesi, est-ce que cette annonce n'intervient pas un peu trop tard? Parce que finalement, elle ne rassure pas ceux qui ont reproché à Emmanuel Macron, je cite, un manque d'humanité. Et finalement, elle fâche aussi ceux qui étaient opposés, dont certains députés parlementaires, en tout cas, d'En Marche.
Alors, je me suis exprimé sur le sujet. Je n'ai pas été le seul. Je pense que la France aurait dû accueillir, et ça le plus tôt possible, eh bien, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient dans l'Aquarius. Je n'en dirai pas plus.
D'accord, mais quand même, l'Aquarius c'est quoi? C'est un déni d'humanité pour vous?
Je ne dirais pas que c'est un déni d'humanité.
Je rappelle qu'il est passé à 20 km d'Ajaccio.
Vous avez le droit international et puis après vous avez ce que j'appelle les valeurs de la France, celles qui sont reconnues depuis des siècles. Nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières. Et donc à ce titre-là, je pense que nous aurions dû effectivement être au rendez-vous et accueillir enfants, femmes et hommes de ce
bateau. Alors l'immigration, c'est un sujet européen, c'est même le sujet majeur. Il y a une fronde actuellement contre Angela Merkel en Allemagne, de la part de, la branche, de sa branche droite, de sa coalition. Sur ces questions, on a l'impression désormais, et on approche des européennes, puisque ça aura lieu, je crois, au mois de mai, on a l'impression sur ces questions que les intérêts nationaux, désormais, sont privilégiés par rapport à la politique commune européenne.
Non, enfin, on va en parler, mais je pense que la place de l'Europe est vraiment importante, que ce soit d'un point de vue environnemental ou là, effectivement, d'un point de vue sur l'accueil.
Mais là, il y a une cacophonie entre l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne.
Effectivement, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un message fort, il faut reconstruire ce projet européen pour être à la hauteur des enjeux de notre société.
On a entendu votre position sur l'Aquarius, très clair. Vous faites partie, par contre, des 197 députés, finalement pas si nombreux que ça, en marche, qui ont voté la loi Asile et Immigration, qui est le texte qui a suscité le plus de débats à l'intérieur de votre mouvement politique. Beaucoup se sont n'ont pas participé au vote, hein, simplement sans s'exprimer. Et une poignée, dont des Lambert, par exemple, le député Lambert, votre confrère, sont abstenus. Alors, votre position. Cette loi, pour vous, elle était à l'équilibre ? Vous avez compris le débat et
cette
les réticences qu'elle a suscité ?
Par contre, elle est, je pense, à l'image de, en fin de compte, des problématiques qu'on rencontre au niveau de cette première année, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup plus de pédagogie, il faut vraiment expliquer tout le rôle du Parlement, les amendements qu'on a portés, et il y a un objectif qui a été, à mon avis, bien pris en compte, c'est en particulier l'apprentissage de la langue, et l'apprentissage de la langue pour, justement, ces femmes et ces hommes que l'on accueille sur notre territoire, qui a été effectivement porté dans cette loi Asile-Immigration, et c'était des propositions pertinentes qui ont été reprises, donc c'est la raison pour laquelle j'ai porté mon vote en pleine nuit pour ce texte.
C'était juste une question de pédagogie, selon vous. Contenu ne posait pas problème.
C'est une question de pédagogie, et le contenu devait être beaucoup mieux expliqué. On est tous responsables de ça. Il ne s'agit pas de taper sur le gouvernement. Député et moi compris, on n'a pas assez expliqué, mais que ce soit pour Asile Immigration ou pour d'autres lois qui sont pertinentes pour notre société.
Alors, Asile Immigration, il y a la question de la rétention administrative. On parle, hein, c'est un lien avec l'immigration, avec l'Aquarius. Ça a choqué le fait de pouvoir prolonger, de passer de 45 à 90 jours de rétention administrative. Tout récemment, là, début juin, Adeline Hazan, qui est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, dénonce une hausse permanente de l'enfermement des enfants étrangers dans ces centres de rétention. Et de nombreux techniciens ont souligné le fait que maintenir les gens dans cette privation de liberté ne réglait pas forcément d'un point de vue administratif. C'était dans les premiers jours, en fait, que les choses se réglaient ou se réglaient pas. Pour vous, ce point-là était aussi nécessaire. Donc pourquoi alors
Il était nécessaire. Après, sur tous les pans de cette loi, il y a effectivement aussi un passage au Sénat. Il y a des discussions qui sont en cours aussi avec le ministère de l'Intérieur. Donc là où il y a des manquements, il y a effectivement une deuxième étape avec les discussions au Sénat et une CMP qui, je l'espère, sera conclusive. Donc moi, je continue le dialogue avec les associations, en particulier avec une association qui fait un travail extraordinaire dans ma circonscription qui s'appelle Welcome. Et donc je me tiens toujours à leur disposition pour leur porter une aide.
Vous êtes en train de nous dire que vous pourriez évoluer sur ces questions selon si des gens vous font la démonstration que certains points...
Mais vous savez, faire de la politique, c'est aussi être à l'écoute et entendre un certain nombre de messages. Donc effectivement, s'il y a... Alors moi directement non, parce que je suis député, mais il y a un certain nombre de messages à faire passer aux sénateurs. Ces messages ont été passés, et donc j'espère que dans le cadre de ce deuxième passage particulier au Sénat, eh bien, il y aura effectivement un rééquilibrage, et donc le cas échéant, je pense qu'on ira dans le bon sens.
Vous vous offusquez pour l'Aquarius, vous dites, vous rappelez...
Je ne suis pas offusqué, j'ai juste dit que la France devait être au rendez-vous, le président de la République
l'a
entendu.
Vous rappelez les valeurs de la France, celles des droits de l'homme, et en même temps vous votez un texte qui est quand même très dur.
Non, il n'est pas dur, je l'ai dit. Là vous avez donné effectivement un point de rééquilibrage. On a passé un certain nombre de messages au niveau du Sénat, j'espère qu'ils seront entendus. Nous verrons dans les années, dans les mois et dans les semaines à venir.
Je peux citer aussi le défenseur des droits, Jacques Toubon, hein, qui n'est pas un gauchiste, on va dire, avec un parcours
CV. Après, vous savez, c'est simple de donner des leçons. Enfin, je ne dis pas pour vous, attention, mais pour Jacques Toubon et d'autres, de donner des leçons en venant expliquer ce qu'il fallait faire. Et lorsque ces gens-là étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait.
En même temps, aujourd'hui, dans son rôle. Hein.
Oui, très bien. Qui joue son rôle?
D'accord. Le processus Dublin, hein, c'est bien au cœur de discussions qui ont lieu et qui vont avoir lieu pour les Européennes. C'est-à-dire, c'est un peu technique, mais c'est cette règle qui dit que il faut demander l'asile dans le pays dans lequel on est entré en Europe, hein, aux frontières européennes. Ce qui fait concrètement que c'est l'Italie qui porte la charge, en fait, essentiellement en ce moment de l'immigration. Est-ce qu'il faut remettre à plat tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne dysfonctionne pas? Est-ce qu'il y a une responsabilité à partager plus généralement sur ces...
Il y a effectivement un vrai problème et l'Europe n'est pas à la hauteur. Et donc, dans le cadre effectivement des procédures du binage, il faut donner, redonner une clarification et mettre en place un système qui marche et où tout le monde participe à l'effort.
Aujourd'hui, vous parlez d'une seule voix au niveau d'En Marche au sein de l'Assemblée nationale.
Non. Enfin, la richesse du groupe, c'est justement les diversités.
Sur ces sujets-là, il y a beaucoup de discorde ou il y a beaucoup de malentendus à planir.
Il n'y a pas beaucoup de discorde. Il y a un certain nombre de courants de pensée. Et donc, à ce titre-là, il y a différentes visions. Donc là, je n'ai pas la prétention de dire que je m'exprime au sein du groupe de La République En Marche. Vous me posez la question à titre personnel, je vous réponds en toute liberté.
Le président, par exemple, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a limogé, sa numéro 2, Virginie Calmel, ça vous inspire quoi?
Ça ne m'inspire rien. Vous savez, moi, je me bats au quotidien pour transformer notre France. Ce qui se passe aux Républicains appartient aux Républicains. Je m'en préoccupe.
Ça veut dire quoi, en gros? Que la critique est moins bien tolérée dans les partis?
Ben, je ne sais pas.
Quand le numéro 2 se fait limoger, quand Monsieur Ferrand, patron des députés En Marche, impose une seule voix, en tout cas une critique plus modérée.
Richard Ferrand n'impose rien du tout, il nous laisse la liberté.
Avec des avertissements tout de même.
Bon, moi j'ai voté, on en parlera après si vous voulez, j'ai voté en particulier sur le glyphosate. Richard Ferrand n'est pas venu me voir pour me taper sur les doigts. Donc il nous laisse la liberté de porter les mesures que l'on souhaite. En toute cohérence avec le programme présidentiel.
Michel ?
Alors, on est à un an, on l'a dit dans le portrait, ça fait un an que vous êtes élu, vous et votre majorité, donc c'est un peu l'heure des bilans, et aussi de celui du chef de l'État, forcément. Alors, il y a quelque chose, cette fameuse qualification de président des riches qui lui colle à la peau. On a entendu aussi un certain nombre de marcheurs et d'élus demander...
De muscler la jambe gauche.
De rééquilibrer, etc. Muscler la jambe gauche, rééquilibrer en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'un peu déséquilibré. Alors, est-ce que vous en êtes de cette demande de rééquilibrage?
Alors, je ne le formerai pas comme ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse distribuer l'argent que nous avons. Or, actuellement, la France n'a pas cet argent. Par contre, il faut qu'on soit beaucoup plus pédagogue. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les réformes qui sont, entre guillemets, de gauche. Quand on dédouble les classes de CPC1 dans les zones d'éducation prioritaire, ça, est-ce qu'on en a parlé assez? Il faut beaucoup plus en parler.
Ça, c'est selon vous une mesure marqueur de la gauche?
Vous n'allez peut-être pas me cornériser en disant est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche, mais en tout cas,
c'est
des mesures qui sont vues d'un point de vue beaucoup plus social. Quand on revalorise le minimum vieillesse, qui l'a fait aujourd'hui à gauche? Personne. Quand on augmente l'allocation à l'adulte handicapé, pareil. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus sur le terrain pour expliquer tout le sens.
Alors, Jean-Marc Julesi, on va au cœur du sujet. Les aides sociales coûtent un pognon de dingue. Il faut responsabiliser les pauvres. En gros, c'est ce que dit le président de la République. Ça signifie quoi, responsabiliser?
Responsabiliser, ça veut dire...
Culpabiliser,
non,
ça veut dire
quoi? Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit d'avoir un regard critique. Je pense qu'il faut absolument que notre société aide les plus démunis. Oui, il faut qu'elle l'aide, mais avec efficacité. Avec efficacité parce qu'au jour d'aujourd'hui, on distribue un certain nombre d'argent, à juste titre. Mais est-ce que cet argent rend les gens beaucoup plus vertueux? Est-ce que les gens retrouvent un travail?
Est-ce que les gens retrouvent un travail? On n'est pas vertueux, Jean-Marc Julesi?
Non, mais est-ce que ces gens-là retrouvent du travail?
Est-ce que c'est l'affaire des entreprises, pas l'affaire de ceux qui ont perdu leur emploi, d'offrir du travail.
Non, mais c'est pas le rôle de l'État non plus. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place tout simplement des aides qui soient efficaces pour que ces gens-là retrouvent leur place dans la société et qu'ils puissent s'émanciper au sein de notre société. C'est tout. Et donc, vous n'allez pas me faire dire que les pauvres, quand on en fait une chasse aux porcs, etc. Non, il faut que notre société puisse accompagner, mais accompagner de manière beaucoup plus efficace.
Mais il cherche quoi, Emmanuel Macron, quand il fait ça?
Posez-lui la question, je serais pas...
Justement, au moment où il y a dans vos troupes des gens qui exigent un rééquilibrage sur la jambe gauche, quel est le message? Alors, par exemple, ça fait réagir. Laurent Berger, CFDT, qui est un syndicat réformiste, qui dit mais il n'y a pas trop d'argent consacré à la pauvreté, il n'y en a pas assez, il faut arrêter de culpabiliser les pauvres. Là, pour le coup, cette formule de président des riches, enfin, avec des petites phrases comme ça, elle risque vraiment de marquer les esprits. Et on est à J+1, mais à J+2, J+3, enfin, si. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette chose qui s'installe et de cette image qui s'installe vis-à-vis de ce gouvernement?
Je ne suis pas inquiet parce qu'il va y avoir un certain nombre de mesures proposées pour lutter justement contre la pauvreté au sein de notre société. Il faut, là encore une fois, l'accompagner, beaucoup plus l'expliquer, contrairement à un certain nombre de réformes qu'on n'a pas assez expliquées. Et on doit tous être à la manœuvre en la matière.
On peut dire qu'il y a un manque de sensibilité sociale au gouvernement?
Je vous l'ai dit, je pense qu'on ne peut distribuer que l'argent que nous avons et il faut, excusez-moi de le répéter, mieux expliquer ce que
donc
nous...
Donc tous ces milliards qui ont été donnés en aide sociale jusqu'à présent et qui n'ont pas rendu les pauvres milliardaires, vous le regrettez?
Non, la vocation de... Quand vous travaillez au service de sa société, notre société, l'objectif, ce n'est pas de devenir milliardaire. Non, c'est de pouvoir s'émanciper au sein de notre société.
C'était une phrase du président de la République, Emmanuel Macron, alors, pardon.
Vous prenez une phrase dans son contexte, vous n'allez peut-être pas m'avoir ainsi. Mais voilà, il faut que tout simplement remettre la valeur travail au sein de notre société et que chacun retrouve sa place.
Michel ?
Alors, il y a notre dossier hein, qui revient. Je suis désolé, on est sur le bilan, donc c'est les choses saillantes. Mais en plus, il y a une actualité, c'est-à-dire que l'impôt sur la fortune a été supprimé, remplacé par... l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Les gens avaient, ils ont fait leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Mais est-ce qu'il fallait faire ça aussi? Est-ce que ça fait pas partie des erreurs de l'année écoulée, de commencer comme ça, de marquer les imaginations en fait avec cette réforme?
Bon, la suppression ou du moins la transformation de l'ISF, simplement pour rappel, ça coûte 3,2 milliards d'euros. Lorsqu'on va supprimer la taxe d'habitation dès le mois d'octobre, ça coûte 4,5 milliards d'euros. Vous voyez bien que l'équilibre va plutôt dans le sens effectivement de nos concitoyens. Donc l'objectif de cette... après, quand on revient justement sur l'objectif de cette suppression de l'ISF, c'est effectivement de refaire venir du capital au sein de notre société. Le fait de dire ça, ce n'est pas un gros mot. Et l'objectif, c'est de créer de la richesse. Alors après, effectivement, on peut en discuter. Il faut que cette richesse, elle profite à tous. Et l'actualité montre que ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, travaillons ensemble pour effectivement faire venir des entreprises, donner beaucoup plus de liberté à nos PME, à nos TPE, à nos startups, pour que tout le monde profite de cette richesse.
Alors au Ravi, on a interviewé un économiste, c'est le directeur du COMBAS, le Centre d'observation et de mesure des politiques d'action sociale. Il s'appelle Hervé Guéry. Et il a fait une étude sur la PACA, la deuxième région de France, en termes d'écart de richesse, hein, sur les effets justement de la suppression de l'ISF. Il a des chiffres, donc à Aix par exemple, 1872 familles assujetties autrefois à l'ISF et qui vont, grâce à cette réforme, gagner chaque année 20 millions d'euros sur Aix. À Marseille, c'est 3821 familles et ça fait, suite à cette réforme, 38 millions d'euros. Enfin, on pourrait continuer à dérouler comme ça le schéma. Enfin, dans un moment d'austérité, avec, reportons en arrière un petit peu dans le rétroviseur, ces discours sur les pauvres et le pognon de daim qui est dépensé en leur faveur, est-ce que ça ne fait pas, encore une fois, une photographie déséquilibrée?
Je ne crois pas, parce que j'ai l'intime conviction que cet argent-là, il va profiter à l'économie, il va profiter à l'investissement dans nos startups, dans nos PME, et donc forcément, par voie de conséquence, à l'emploi.
L'argent qu'on donne aux riches est plus productif que celui qu'on donne aux pauvres, c'est ça? À travers les aides sociales ?
C'est pas du tout comparable. C'est pas du tout comparable. Là, on parle effectivement d'investissement dans l'économie. Et par ailleurs, je tiens quand même à vous souligner qu'on est en train de travailler, et je crois que c'est Bruno Le Maire qui fera des annonces demain sur la loi Pacte, sur l'épargne salariée.
Ben justement, venons-en à cette loi Pacte.
Sur l'épargne salariée, pour que justement nos concitoyens puissent participer à l'économie de notre société.
Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, c'est 71 articles, c'est beaucoup, hein, pour libérer les entreprises et accompagner leur croissance, simplification de croissance des entreprises, mieux faire participer les salariés aux résultats. Je vous rappelle qu'il y a 16% des salariés en France qui en bénéficient. Ça va amener quoi concrètement, ça?
Ça va amener tout simplement une libéralisation, alors j'ai pas honte, pareil, c'est pas un gros mot, hein, une libéralisation de notre économie, donner beaucoup plus d'oxygène à nos PME et nos start-up, j'insiste, et puis cette capacité à faire participer les salariés à leur entreprise. Je pense que moi, j'y viens du monde de l'entreprise. Il y a encore un an, j'étais dans le monde de l'entreprise. Ça aurait été effectivement un honneur de pouvoir participer à l'évolution de ma boîte.
Alors, sur ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, il y a un volet quand même dans ce texte qui concerne les privatisations, c'est pas rien. L'État devrait céder une partie de ses participations dans le groupe Engie, ça c'est l'électricité et le gaz, hein, également dans la Française des Jeux et les aéroports de Paris. Ça, ce sont des entreprises stratégiques, hein. Vous êtes là ?
C'est une question ?
Oui, c'est des entreprises stratégiques. Alors, pourquoi ces entreprises-là ?
Alors,
c'est des entreprises qui ont des monopoles, monopoles d'État.
C'est des entreprises stratégiques, certes, mais après, on peut se poser la question de la place de l'État dans notre société. Est-ce que c'est à l'État ? Est-ce que l'État est efficace au sein même de ces sociétés ? Est-ce que l'État...
Bah oui, puisque la Française des Jeux est bénéficiaire, elle a un monopole.
Est-ce que l'État a sa place dans ce genre d'entreprise ? La question est posée. Le gouvernement, pour justement aller chercher de l'argent, semble avoir cette volonté de privatiser et donc de laisser des parts à un certain nombre de...
Donc, si je résume votre pensée, en privatisant, vous allez créer des monopoles privés. Vous allez passer d'un monopole d'État qui appartient à tous les Français... un monopole privé. La Française des Jeux, par exemple, qui appartient à tous les Français, qui rapporte des taxes confortables à l'État, vous allez la privatiser et la donner à quelques-uns. Quel est l'intérêt ?
L'objectif, c'est d'aller chercher de l'argent et concentrer le rôle de l'État là où il est efficace. Tout simplement dans la sécurité, dans justement la répartition de nos richesses. On parlait tout à l'heure effectivement de l'aide aux plus démunis, une véritable vision de notre économie et puis des idées dont on pourra effectivement partager autour de la mobilité, des transports. C'est là que l'État doit être efficace.
Michel ?
D'accord. On est sur la fameuse théorie du ruissellement, c'est ça ? C'est pas très nouveau, mais c'est une conviction, celle des libéraux, selon laquelle, effectivement, l'argent, s'il est investi dans le monde de l'entreprise, va permettre ensuite de faire de la répartition, et ça marche dans ce sens-là.
Moi, je considère pas que le fait de dire d'être libéral est un gros mot. Je pense que le fait de laisser beaucoup plus de liberté, excusez-moi, je sais que c'est pas forcément la mode de le dire, peut-être aussi même dans sur vos ondes, mais le fait de laisser beaucoup plus de liberté et de donner un peu d'oxygène à un certain nombre d'acteurs, je pense que ça peut profiter à notre société.
Et c'est nouveau, donc ça c'est. Vous pensez que c'est vraiment nouveau ? C'est une tendance finalement.
Non, c'est pas nouveau.
Il y a eu beaucoup d'alternance politique et grosso modo, c'est quand même les politiques qui ont été menées jusqu'à présent.
Non.
Non, vous n'avez pas ce sentiment-là ?
Non, j'ai pas ce sentiment-là.
Donc là, il y a une. Parce que le terme de révolution dans l'emploi, mais c'est le vocabulaire de Emmanuel Macron. Hein. Il a même fait un livre qui était titré comme ça. Mmh. C'est une révolution libérale.
Non, c'est pas une révolution. Mais avoir cette volonté de remettre la valeur travail au sein de notre société, eh bien, en cela, oui, une vraie politique en mettant en avant la valeur travail, oui, c'est une révolution.
D'accord. Alors, vous avez parlé aussi de mobilité. Ça nous amène à une autre actualité et pas la moindre. C'est la réforme à la SNCF. Hein, donc, le terme utilisé par le gouvernement, c'est le pacte ferroviaire. Ça y est, donc, il est adopté. Le Parlement a adopté ce pacte. Et en même temps, les syndicats annoncent, une partie d'entre eux, CGT et Sud, CGT, c'est la première organisation, que le conflit va se poursuivre. En tout cas, leur volonté de le faire se poursuivre en juillet, peut-être en août, selon Sud. Alors, votre réaction, c'est ça y est, victoire pour le gouvernement.
Non, il ne s'agit pas de dire victoire, il s'agit simplement de constater qu'on a pu travailler en étroite collaboration avec un certain nombre de syndicats, à la fois avec le Sénat, avec les différents acteurs, avec la SNCF. Et donc, effectivement, on est arrivé au bout du processus législatif. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sans contester le droit de grève qui, effectivement, est légitime dans notre société, je pense qu'on a atteint ici ce que j'appelle une grève politique. Parce qu'on est dans une espèce de surenchère où il faut préparer les futures élections patronales d'automne.
Et en même temps, je parle comme Emmanuel Macron, et en même temps, le dialogue social était quand même très compliqué, y compris avec les organisations dites...
Progressiste.
Progressiste, c'est pas le mot, en tout cas, celle qui
réclame.
Réformatrice, merci. La négociation, jusqu'à ce jour, et encore à ce jour, le front syndical n'a pas éclaté. Alors, on sent que maintenant, effectivement, la CFDT et l'UNSA, pour les nommer, ne veulent pas prolonger le mouvement, mais jusqu'à présent, sur le fond, ils ont exprimé une frustration en disant, et ça, on entend ce commentaire souvent, ce gouvernement consulte beaucoup, écoute beaucoup, mais décide seul. Et ça, ce sont des organisations réformistes qui le disent.
Je pense que c'est une position qui est caricaturale parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été proposées par ces syndicats qui ont été reprises afin de gonfler ce qu'on appelle le sac à dos social. Le fait de pouvoir partir de la SNCF et d'être embauché effectivement dans une entreprise concurrente et de partir avec un certain nombre d'acquis sociaux. Et donc ça a été validé dans la loi. Il y a un deuxième volet effectivement qui s'ouvre. C'est sur effectivement la définition de la convention collective. Les débats sont ouverts. Mais une chose est sûre, c'est que moi, en tant que parlementaire, j'ai pu échanger avec l'ensemble des syndicats.
Je rappelle que vous êtes membre à l'Assemblée nationale, vous êtes membre du haut comité du système de transport ferroviaire.
Exactement, exactement. Donc j'ai pu échanger avec l'ensemble des syndicats, on a fait remonter un certain nombre de propositions qui sont venues, je le disais, alimenter ce sac à dos social.
Et alors là, vous avez fait campagne sur ce thème-là et vous continuez à dire que vous êtes attaché au rail. Et ce qui est assez courageux, je pense, pour un député, que vous êtes même parfois très régulièrement assez critique vis-à-vis du tout automobile, alors que souvent, les électeurs n'aiment pas qu'on les ennuie avec leur voiture. Vous tenez ce discours. Alors, en quoi, expliquez aux auditeurs, en quoi cette réforme, ce pacte ferroviaire, va permettre ce rééquilibrage parce que là, il y a des craintes aussi. Certains disent, on va libéraliser et peut-être que la route, finalement, va... C'est plus souple, c'est plus rapide, elle va écraser, il va y avoir des fermetures de lignes.
Alors, il y a plusieurs volets. Il y a un volet, justement, de restructuration pour travailler sur l'efficacité de la SNCF. Donc, ça, c'est acté au niveau de la loi. Donc, pour une SNCF qui marche mieux, qui propose une offre beaucoup plus régulière. Et puis, après, il y a cette ouverture à la concurrence. Ouverture à la concurrence qui n'est pas une privatisation de la SNCF, ça j'insiste bien, pour justement des offres qui sont beaucoup plus régulières et à coût moins onéreux. Et puis il y a un deuxième volet, et ça a été acté, c'est justement un plan d'investissement, et c'est là que l'État doit être présent, non pas au sein de la Française des Jeux, mais c'est là que l'État doit être présent, un plan d'investissement sur ce qu'on appelle à tort, parce que ce n'est pas des petites lignes. Je ne considère pas que c'est des petites lignes, quand on voit le rôle qu'elles ont dans notre société, ce sont des lignes de vie, où on a un plan d'investissement de 36 milliards d'euros sur 10 ans.
D'accord. Alors, le distinguo entre ouverture à la concurrence et privatisation, peut-être n'est pas très simple à suivre. En tout cas, dans la région, ça nous amène au territoire.
Non, mais juste sur ça, ça a été acté dans la loi, c'est-à-dire qu'on aura des titres incessibles. C'est-à-dire que l'État, justement, et encore une fois, j'insiste, c'est là que l'État doit être présent, ne pourra pas céder les titres de la SNCF à du privé.
D'accord. La région PACA, Renaud Muselier, qui s'est positionné, une des régions de France, ce n'est la région de France, qui s'est positionné vraiment en première ligne d'une logique justement d'ouverture à la concurrence pour les transports régionaux, les fameux TER, qui marchent mal, hein, tout le monde en convient, y compris même les syndicalistes. Tout le monde n'explique pas les choses de la même façon. Votre point de vue là-dessus, vous pensez que cette volonté d'ouvrir, d'y aller très vite, hein, c'est décembre 2019, d'ouvrir à la concurrence le trafic régional va permettre d'améliorer le service ferroviaire dans notre région?
Je rappelle quand même aux auditeurs que le trafic, le contrat en tout cas, en 2013, le budget annuel d'exploitation du contrat passé entre la région et la SNCF, c'était 254 millions d'euros.
Alors, il y a encore une fois deux aspects. Il faut arrêter de penser que l'ouverture à la concurrence, ça sera l'alpha et l'oméga. Il faut le regarder suivant ces deux aspects. Ouverture à la concurrence avec beaucoup plus d'offres de services de mobilité et plan d'investissement. À partir du moment où on aura investi dans les infrastructures, qu'on aura des infrastructures qui soient rénovées, et bien effectivement, nos trains marcheront mieux. Pour répondre à votre question sur l'ouverture à la concurrence en région sud, Renaud Muselier a eu cette volonté de dire il faut que effectivement la région soit une vitrine. Eh bien, je lui laisse cette responsabilité. Il est en train effectivement de mettre en place un certain nombre de choses. On sera là pour faire remonter les problématiques, mais il faut effectivement que on montre pas l'exemple que cette ouverture à la concurrence, couplée un investissement sur ces lignes de proximité, eh bien, s'engage l'efficacité.
Là, vous êtes très prudent, hein. Vous êtes déjà trentenaire, je l'ai dit, donc vous avez beaucoup de...
Non, mais...
Mais à titre personnel, attention, vous êtes favorable.
Il n'y a pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois. C'est-à-dire que dire simplement ouverture à la concurrence, ça va mieux marcher. Je dis attention, il faut que ça soit ouverture à la concurrence plus investissement sur les infrastructures, parce que on a des infrastructures qui sont vieillissantes.
C'est-à-dire que le contribuable paye, mais c'est le privé qui va récolter les bénéfices.
Mais non, soyez pas caricatural ainsi.
Bah si, c'est non. Pas caricatural, non, non, c'est les faits.
Et c'est pas le privé. Quand il y aura toujours la SNCF qui sera présente sur nos lignes. Donc,
pas toujours. Là, pas par
toujours.
Exemple,
si c'est
pas
là, toujours. C'est privatisé.
Pas toujours. Mais la SNCF sera présente. Il suffit de gagner des marchés, ça sera ouvert et c'est tout. Voilà.
Alors il y a une information. L'appel à projet a été lancé. Hein, Renaud Muselier, il y a déjà 10 opérateurs qui ont répondu. Sur les 10, il y a 2 Italiens, 2 Allemands, 1 Britannique. Donc ça, on peut imaginer très bientôt en PACA des trains par une compagnie allemande.
Oui, on peut imaginer.
Et là, ce que j'entends, c'est que vous dites que si les infrastructures, elles sont
excusez-moi
pas...
Excusez-moi de le répéter. Oui, c'est très bien, ouverture à la concurrence. Mais j'insiste, il faudra aussi qu'il y ait une rénovation de nos infrastructures. Voilà, il ne s'agit pas de rénover 100% des infrastructures, il s'agit de cibler les endroits où nous avons aujourd'hui des problèmes, sans tout mélanger, attention, mais je tiens quand même à rappeler que sur la ligne Marseille-Nice, on met 25 minutes de plus que dans les années 70. Donc c'est bien qu'il y a des problématiques au niveau de nos infrastructures, où on a des trains en retard, où il y a souvent des problématiques effectivement de disponibilité des voitures, des wagons. Donc soyons au rendez-vous du ferroviaire.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Avec nous, Jean-Marc Tulesi, député en marche de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, Salon Bert-Pélissanne.
Oui, un dernier mot sur le reste, c'est quand même un dossier important. Donc on vous sent plus prudent que Renaud Muselier. Le recours à un opérateur privé ne va pas tout régler.
Vous posez la question à un député que vous comparez au président de la région. C'est normal que le président de la région soit ambitieux en la matière. Moi, ce que je dis juste... Et non,
lui a tranché, il a dit c'est le problème, c'est la SNCF, ça va pas. Et tant qu'on sera avec cet opérateur, ça ne marchera pas.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut pas taper non plus sur la SNCF. Je l'ai dit, et ça, vous auriez dû quand même le noter. Dans chacune de mes interventions, je mets en avant l'excellent travail que font les salariés de la SNCF. Et ça, je l'ai dit depuis le début. Donc, arrêtons de taper sur ce qu'on a sur les cheminots. Donc, arrêtons de taper dessus. Ce n'est pas le problème des cheminots. Et donc, à ce titre-là, vous me parlez de Monsieur Muselier.
Pourquoi faire une réforme si c'est pas le problème des cheminots ?
C'est pas le problème. Toute cette histoire autour de leur statut des cheminots.
Depuis le début, est-ce que je vous parle des cheminots ? Non.
Oui, mais le gouvernement, oui.
Non, mais le gouvernement n'a jamais parlé
le statut.
Le statut. On en parle du statut, si vous voulez.
Mais si vous voulez, parce que en fait, à l'image de l'ampleur de la dette, le statut, c'est quand même pas grand-chose. Enfin, si par rapport au mal d'argent en cause.
Le statut, tous les cheminots le garderont. Par contre, ceux qui sont embauchés par la suite, effectivement, ne seront plus embauchés au statut. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà posé la question de ceux qui rentrent à la SNCF ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui rentrent au statut ?
Est-ce que les...
Non, mais je pose une question.
Attendez,
non, mais je pose une question.
C'est une minorité, oui. Ouais, c'est voilà. Les conducteurs, donc, surtout les...
Voilà. Est-ce que les cheminots aujourd'hui qui travaillent sur les petites lignes, par exemple, vous avez cité Marseille...
Je n'aime pas
Nice,
le terme petite ligne.
Ligne régionale, Marseille-Nice ou Marseille-Istres. Si c'est privatisé,
C'est pas privatisé, c'est ouvert à la concurrence.
Est-ce que si c'est ouvert à la concurrence et qu'une compagnie étrangère gagne le marché, est-ce que ces cheminots travailleront pour la compagnie étrangère avec leur statut de cheminot ?
Non, ils partiront justement. S'ils en ont la volonté, ils iront justement...
En perdant leur statut et leurs avantages.
Ils perdront le statut de cheminot, c'est-à-dire un emploi à vie, etc. Mais ils garderont un certain nombre d'avantages qui seront négociés dans le cadre de la convention collective dont les négociations commencent.
Donc la convention collective s'imposera à tous les nouveaux opérateurs.
C'est comme ça que ça a été défini. Après, ça peut encore changer. Il y a encore des discussions, mais c'est ce qu'on appelait aussi le sac à dos social, où les cheminots garderont un certain nombre d'avantages.
Michel ?
Bon, une inquiétude, on parle transport, alors on continue. Cette fameuse réduction de la vitesse, c'est pour tout bientôt, hein, 80 km à l'heure. Alors là, on sent que ça tiraille, hein, ça réagit de tous les côtés, surtout en ruralité ou en zone périurbaine.
Alors écoutez, faire de la politique, c'est aussi faire preuve d'un peu de courage. Donc j'ai fait partie de ces députés qui ont soutenu la mesure. Je sais qu'elle est impopulaire. Bon, Quand on regarde le nombre de tués sur les routes, on est autour de 3600 par an, c'est trop. Et donc à ce titre-là, moi j'ai aucun souci à dire, à porter cette mesure de baisse de 10 km/h, non pas sur toutes les routes, ça aussi il faut bien l'expliquer, c'est sur 400 000 km de routes départementales et nationales sans séparateur central, important de le souligner. Et entre nous, si on peut arriver à ce qu'on ait entre 300 et 400 morts de moins sur les routes par an en roulant à 10 km/h de moins, eh bien moi je dis...
Mais en tant que député qui fait la loi, est-ce que c'est logique d'autoriser des constructeurs d'automobiles à construire des machines très puissantes, 220 km/h et plus, et à imposer une vitesse à 80 km/h?
Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je dépose une proposition de loi pour brider les voitures?
Bah par exemple, vous bridez bien la vitesse des automobilistes.
Non mais donc il y a quoi? Il y a justement cette mesure qui a été portée. Moi, je la soutiens, et donc elle sera effective au 1er juillet.
Mais ça vous semble logique de vendre des véhicules qui vont à 250 et plus, et à limiter la vitesse à 80 km/h?
Pas partout. Voilà, donc à ce moment-là, je ne me vois pas aujourd'hui dire à un constructeur, mais vous allez, vos voitures, elles ne rouleront pas à plus de 230 km/h. Donc, et puis si de toute manière on limite à 130 km/h, il faudra aussi que comment vous allez m'assurer que sur les routes à 90 km/h, elles pourront respecter les limitations de vitesse.
D'accord.
Ou alors vous proposez qu'on limite toutes les voitures à 80 km/h, c'est ça?
Non, je propose juste un peu de cohérence. De la cohérence.
D'accord, mais c'est très cohérent.
Mmh. Selon vous, la future collectivité, parlons un peu de local, la future collectivité locale qui rassemblera la métropole Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône, là-dessus, vous avez des informations sur cette future institution?
Alors, j'ai pas d'informations, j'ai pas un scoop à révéler, j'en suis désolé. Par contre, j'ai une vision claire de cette problématique. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un pro métropolitain. Je pense que la métropole peut nous apporter beaucoup. Par contre, il faut qu'on travaille tous ensemble, et j'insiste bien sur le terme tous ensemble, pour reconstruire cette métropole, en particulier sur les compétences. Je pense qu'il faut redonner un certain nombre de compétences, de proximité aux élus locaux.
Alors qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui va rester à la métropole? Qu'est-ce qui va retourner aux communes? Comment ça va se passer, ce Big Mac?
C'est pas un Big Mac. Je pense que la métropole doit se concentrer sur le développement économique, sur les transports, et sur l'aménagement du territoire et sur la solidarité, en particulier envers les handicapés. Tout le reste, il faut redonner un maximum d'oxygène à nos élus locaux avec les moyens qui vont avec.
D'accord. Pour le nombre d'élus, ça a été tranché ou pas? On parle de 70 élus locaux qui siégeront dans la métropole.
Alors, je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, moi, aujourd'hui, ce chiffre-là, je ne l'ai pas entendu de la part des ministères.
Le mode de scrutin?
Alors, le mode de scrutin, pareil, on n'a pas eu une confirmation. Par contre, ça aussi, ça ne fait pas l'unanimité au niveau des élus locaux. Par contre, moi, ce que je prône, c'est un scrutin de liste. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'on puisse, notamment au sein même de cette métropole, travailler sur un projet métropolitain. Et au moment des élections, il faut qu'on puisse débattre projet contre projet.
Au niveau de la géographie, le pays d'Arles avait des ambitions d'autonomie, faire sa propre métropole.
Alors moi, je suis pour une expérimentation. Une expérimentation pendant un an. On laisse la liberté, pendant un mandat, pardon. On laisse la liberté à ces 29 communes de montrer qu'elles sont compétentes en la matière. Et puis, on fait le bilan. Mais on ne peut pas imposer au jour d'aujourd'hui à ces 29 communes d'intégrer la métropole.
Michel,
quel bilan, quel regard vous portez sur cette gouvernance, sur comment fonctionne la métropole à ce jour, en bilan d'étape? Il y a beaucoup de critiques, on parle de gros machins technocratiques, on critique aussi le mode de gouvernance de Jean-Claude Gaudin qui, en bon sénateur, ménage un peu tout le monde. Alors il y a les deux critiques, ceux qui trouvent qu'il y a trop de métropole et ceux qui trouvent qu'il n'y en a pas assez, parce que pas assez de décisions, pas assez d'intégration.
Alors, tout le problème, c'est que cette métropole, elle a absorbé trop de compétences trop tôt. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut redonner un maximum de compétences de proximité à nos élus locaux. Et puis, je pense qu'il y a une question que je pose souvent aux concitoyens que je reçois en permanence. Pour vous, comment vous voyez la métropole? Ben, pour beaucoup, ils n'ont aucune visibilité, ils ne savent pas à quoi sert cette métropole. Je pense que le regard du citoyen est essentiel. Et à l'heure où, vous voyez, ça va certainement vous faire rire, mais où on a fait une grande marche pour préparer les élections présidentielles, à l'heure où on a fait cette grande marche européenne, je pense qu'on pourrait faire une grande marche métropolitaine pour aller à la rencontre de nos concitoyens et construire une métropole qui leur ressemble.
D'accord, ben les transports justement, ça c'est une prérogative de la métropole. C'était présenté comme la priorité ça, de la métropole Aix-Marseille-Provence, améliorer, je cite, et harmoniser l'offre de transport. Pour l'heure, il n'y a qu'un seul abonnement unique qui a vu le jour sur le réseau métropolitain, et pour le reste, pas trop d'ambition.
Non.
Alors, beaucoup d'ambition au départ et pas beaucoup de réalisation aujourd'hui.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a un agenda métropolitain de la mobilité qui est porté par Jean-Pierre Sérus. Moi, je suis aux côtés de Jean-Pierre Sérus pour exposer au ministère, et en particulier au ministère des Transports, Elisabeth Borne, toute la pertinence de cet agenda métropolitain. Et le nerf de la guerre, je le dis en toute transparence, c'est l'argent. Il faut que l'État soit au rendez-vous des promesses faites lors de la précédente mandature, où on avait promis un financement de cet agenda métropolitain. L'État doit être au rendez-vous, tout simplement.
Non, donc, combien?
Des centaines de millions d'euros.
Oh, c'était un plan, il y avait eu un livre blanc, je crois que l'ambition c'était 3,5 milliards.
Oui, mais voilà. Il faut qu'on travaille tous ensemble, et on continue à le faire, pour montrer toute la pertinence de cet agenda métropolitain et que l'État soit au rendez-vous de cet enjeu qui est considérable. Moi, je vous le disais tout à l'heure, il y a un an et demi...
Les communistes, par exemple, ont suggéré, pour avoir plus d'argent, l'argent qui manquait en tout cas, c'était de prélever davantage aux entreprises.
Mais encore une
fois, transport, hein, on parle.
Encore une fois, vous voulez, à l'heure où on a des problématiques d'emploi, où on a un taux de chômage qui dépasse les 11% sur les Bouches-du-Rhône.
Il vaut mieux faire appel à l'État, donc taxer le contribuable.
Moi je pense que non. Non, il faut que l'État soit au rendez-vous, tout simplement, des promesses faites il y a quelques années, tout simplement.
Bon, transport, métropole, certains se sont plaints, par exemple, du projet de tramway marseillais, d'extension sur vraiment dans l'hypercentre marseillais. Alors qu'il y a des besoins immenses en matière d'infrastructure de transport à une échelle plus large. C'est la question de l'équilibre ou du déséquilibre entre la ville-centre et ses projets et le reste du territoire.
D'où la nécessité d'avoir une vision métropolitaine de la chose pour réfléchir en termes de bassin de vie et que chacun puisse vivre grâce à cette métropole.
Bon, je vais convoquer Maryse, notre Maryse Joissin. Vous n'aurez pas des expressions comme elle, montrant du doigt Marseille, Jean-Claude Gaudin, et qui va, avec ses dettes, Marseille et ses dettes, qui va rendre tout le territoire qui est pourtant autour de la ville-centre prospère, va le mettre exsangue.
Non. Non, non.
Et ça passe à salon sur votre discours, c'est...
Ben oui, parce que quand vous discutez avec un certain nombre de salonnais, tout le problème, c'est qu'on a construit une métropole qui ne ressemble pas aux concitoyens. Donc c'est complètement transparent, ils ne savent pas comment fonctionne cette métropole, que ça soit au niveau métropolitain. Vous savez, quand je discute avec eux, ils me disent, mais attendez, moi je vois à peu près ce que fait mon maire, je vois à peu près ce que fait le président de la République. Tout ce qui se passe au milieu, c'est complètement opaque pour moi.
Vous dire qu'ils ne sont pas au courant du tram marseillais, de ce qu'ils vont payer eux sur cet équipement.
Exactement. Mmh. Donc moi, ce que je prône, c'est justement pouvoir faire cette fusion métropole-département sur le périmètre de la métropole actuelle et donner beaucoup plus de visibilité avec un projet métropolitain qui ressemble à nos concitoyens.
D'accord. Donc, en attendant d'expliquer aux gens, en attendant la pédagogie, Aix-Marseille-Provence reste la métropole autoroutière.
Pourquoi vous dites ça?
Bah parce qu'il y aura toujours des retards de financement. Les ambitions sur
les
transports.
Non, il n'y aura pas toujours.
Les ambitions sur les transports sont reportées à la bonne volonté de l'État.
Non, ça ne sera pas à la bonne volonté de l'État parce que, à partir du moment où on a une voie commune, où, vous savez, j'ai développé une méthode qui n'a rien de révolutionnaire. Par exemple, pour porter l'étang de Berre, le problématique de l'étang de Berre, on a mis en place une délégation avec Pierre Dharréville, avec Éric Diard et moi-même. On représente trois courants politiques différents et ça a été apprécié.
PCF,
et on
a, LR
et La République En Marche.
Et La République En Marche.
Et ça a été apprécié. Et ben, faisons la même chose. Et on a commencé à le faire avec Jean-Pierre Sérus pour le dossier métropolitain.
Est-ce que Gaby Charroux vous a envoyé son manifeste pour une autre métropole qui vient de sortir avec 10 propositions pour la, dont la tenue d'états généraux, vous seriez éventuellement d'accord pour y participer à ces états généraux ?
Mais je me tiens à la disposition de tous les élus pour travailler dans le sens du renouveau de cette métropole.
Alors, autre sujet, à moins que tu veuilles continuer sur la métropole et le transport.
Allons-y, j'allais parler de l'étang de Berre, mais on en parlera ensuite.
Parlons de l'étang de Berre.
L'étang de Berre, donc justement, Lyon del Basel, qui est votre, une de vos grandes causes, une friche industrielle, on va dire. On a l'impression que ça va durer cette affaire quand même, parce que rien que pour la dépollution des sols, il y a un chantier de 2-3 ans, hein, si je me trompe. Il faut lever des obstacles administratifs et puis il faut lever beaucoup d'argent. Pourquoi mettre l'accent sans cesse là-dessus ?
Alors, sur l'étang de Berre, il faut regarder ça avec une vision assez globale. Il y a à la fois effectivement une activité industrielle qui demande à renaître, donc en particulier au niveau de la raffinerie qui a fermé. Donc je pense que sur cet aspect-là, il faut que cette raffinerie soit démantelée sous 2 ans. C'est l'engagement. Et puis que ça soit la vitrine à ce qu'on appelle, je pense, une économie, l'émergence d'une économie verte nécessaire à notre territoire. Et dans le même temps, excusez-moi de sortir la phrase préférée de notre président de la République, il faut travailler sur cet étang de Berre. Qui est une pépite de notre territoire, une pépite écologique, pour que, on lui redonne ses lettres de noblesse.
Alors là, c'est notre serpent de mer, un serpent d'étang. C'est le percement du tunnel, la réouverture du tunnel du Rove, pour remettre du sel, hein, rebrancher, reconnecter, on va dire ça comme ça, c'est pas très scientifique, l'étang sur la mer.
Alors vous avez raison de souligner, cet étang de Berre, il n'est plus pollué. Ça, c'est aussi un combat que je mène pour changer le regard qu'on a sur l'étang de Berre. Tout le problème, c'est un problème d'équilibre dans son écosystème et en particulier au niveau de la salinité. Donc, il y a une solution qui est portée par le JPREB, qui fait depuis... le JPREB, c'est un regroupement de l'ensemble des élus autour de l'étang de Berre, qui fait un travail depuis des années... pour habiter l'étang de Berre, il y a une proposition qui est effectivement de réouvrir le tunnel du Rove. Suite justement à la délégation que nous avons portée avec Éric Diard et Pierre Daréville, on est arrivé à ce que Nicolas Hulot dépêche un certain nombre d'experts pour étudier la possibilité de réouvrir le tunnel du Rove, et donc les conclusions arriveront cet été.
Vous me voyez venir, hein, c'est une nouvelle expertise, c'est un dossier qui est ancien, qui est bloqué. Qu'est-ce qui vous laisse à penser que cette fois-ci, on va aller au-delà d'un nouveau rapport d'experts et que ça va avancer ?
Alors, moi, j'ai pas participé aux expertises, je ne suis que député, donc je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui que cette expertise va donner lieu à la réouverture de tunnel du Rhum, mais en revanche... Ce que je sais, c'est que je vois des ministres qui sont sensibilisés à la cause et qui ont envie d'avancer en la matière. Que ça soit sur la réouverture du tunnel du Rove ou sur la nécessité de travailler sur la revitalisation de la zone de la Lyon del Basel.
On utilise ce mot d'expertise, mais on dit souvent que ce gouvernement est un gouvernement d'experts et que dans l'approche, dans ce qui serait innovant finalement, y compris hein, dans le profil qui est le vôtre hein, de quelqu'un issu de la société civile, il y a cette croyance ou cette conviction que l'expertise, ça peut faire bouger les choses. Mais il y a des blocages politiques. Hein, ce dossier, par exemple, de l'étang de Berre, il est à l'arrêt. Pas uniquement parce qu'on n'a pas fait d'expertise, mais parce qu'il y a eu des blocages politiques, il y a eu une absence de volonté politique à un moment donné.
Alors, c'est une bonne question et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir avec cette délégation où on avait les différents politiques qui étaient représentés. Il y avait même le JPREB lorsqu'on a rencontré le cabinet de Nicolas Hulot. Et donc, ça a été apprécié, et ce qui montre bien que la chose politique, la problématique politique n'en est plus une aujourd'hui et qu'il faut avancer sur... la réhabilitation de notre étang de Berre.
Alors je fais un bond sur l'autre dossier que vous avez suivi, vous l'avez dit tout à l'heure, le glyphosate, vous faites partie de ces rares députés qui ont voté contre. Alors là, mais typiquement, c'est-à-dire que tous les experts, c'est attesté, que je veux dire, ce pesticide est dangereux, il y a un problème majeur vis-à-vis en particulier des abeilles, je l'ai dit en mode satirique au départ, et malgré tout, on gagne du temps, on diffère, il y a des intérêts économiques lourds.
Il y a eu une promesse du président de la République. Nous, on a eu eh bien, la promesse, enfin, on a eu la promesse justement qu'il serait au rendez-vous en la matière de supprimer le glyphosate sous 3 ans. Mais on a un certain nombre de députés de La République En Marche à avoir. On a souhaité que cette promesse elle soit inscrite dans la loi.
Et pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux ?
Alors pourquoi ? Quelques-uns diront parce que le vote a eu lieu à 2h du matin, ça c'est pas une raison.
Et pourquoi il a eu lieu à 2h du matin ?
Alors pourquoi ? Ça vous pouvez poser la question au président de la séance, je suis pas encore président de l'Assemblée nationale.
Le député Ruffin dit que tous les sujets sensibles sont votés très tard le soir.
Oui, il dit beaucoup de choses monsieur Ruffin, il ferait mieux d'être dans l'hémicycle. Donc moi aujourd'hui j'ai pris mes responsabilités et contre le gouvernement et contre mon propre groupe, eh bien j'ai voté pour cet amendement. Pourquoi ? Parce que... J'organise, vous voyez, il n'y a pas que des experts dans ma réflexion, il y a aussi les professionnels. Les professionnels en particulier, eh bien, nos apiculteurs. J'ai organisé une table ronde dans ma circonscription où j'ai réuni un certain nombre d'acteurs apiculteurs qui rencontrent des problématiques en la matière. Je ne pouvais pas, vu les difficultés qu'ils rencontrent, je ne pouvais pas ne pas porter cet amendement. Je ne pouvais pas continuer à les regarder les yeux dans les yeux, à dire non, mais... je n'ai pas voulu inscrire ça dans la loi. Ils vivent vraiment un moment qui est vraiment très compliqué pour leur métier, très compliqué pour notre biodiversité. Donc, ils me tenaient à cœur d'être à leur côté.
Mmh. Autre dossier qui touche l'environnement et aussi les temps de berre, la raffinerie, l'autre raffinerie, Total Lamed, avec une reconversion imminente, hein, une ouverture en bioraffinerie. Et qui fait alors l'unanimité contre elle pratiquement, avec un double mouvement, la FNSEA, qui n'est pas très écolo pourtant, mais qui proteste parce qu'il y a, ça implique une importation massive d'huile de palme. La France d'ailleurs s'est engagée cette agriculture-là. Mais malgré tout, voilà, donc feu vert pour Total Lamed, et puis aussi des assos plus classiques, les Amis de la Terre, etc., qui ont déposé des recours juridiques. C'est votre territoire, ça touche aussi au déploiement durable. Votre avis sur cette huile de palme et ce...
Alors, c'est pas avec gaieté de cœur, moi, que je vais vous dire que c'est la moins mauvaise solution. C'est la moins mauvaise solution, pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on importe un certain nombre de biocarburants et on s'aperçoit que... Dans l'importation que l'on a de ces biocarburants, on a des fois jusqu'à 75% qui sont issus, on a 75% d'huile de palme dans ces biocarburants. Donc là, on a eu la certitude, un engagement, que dans la production de ces biocarburants à Total Lamed, on ne dépasserait pas le taux de 50% d'huile de palme. Donc par rapport à cet engagement-là, il me semble que ça va dans le bon sens. Par contre, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas assez. Il faut aller beaucoup plus loin et en particulier agir au niveau européen. Vous me posiez la question tout à l'heure de en quoi est-ce que l'Europe pouvait être utile, etc. L'Europe doit être au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que si on refusait justement l'implantation ou du moins la transformation de Total Lamed, on aurait fait rentrer des biocarburants dont on ne connaissait pas forcément la composition, où on n'était pas satisfait de la composition, venant d'autres pays européens. Donc l'Europe doit répondre sur ces enjeux-là et doit être exemplaire en la matière.
On ne touche pas là les limites du « et en même temps », je pense à autre chose, les états généraux de l'alimentation qui ont été orchestrés, animés par le gouvernement aussi, avec une promesse de plus de la moitié de bio dans les cantines, et puis finalement à l'arrivée... Il y a un objectif qui est beaucoup plus raisonnable, raisonné d'ici 2022. Hein, donc plus de bio et de local, certes, mais on ne sera pas à 50%.
On sera à 30% et 20%. 30% de bio, 20% de... Non, c'est 30% de local, 20% de bio.
Pour vous, donc, c'est suffisant pour vous,
bah,
c'est une étape.
Il faut aller encore plus loin. Et moi, je me rends compte, justement, je suis allé voir la restauration collective. Certaines restaurations collectives vont au-delà de cet objectif et d'autres... voient cet objectif inscrit dans la loi d'un bon oeil parce que ça va leur permettre de monter en gamme. Mais on se rend compte, là j'ai suivi les débats au Sénat, que nos collègues sénateurs ont supprimé cette disposition-là. Donc le combat continue, en particulier lorsqu'il va y avoir cette CMP, la commission mixte paritaire, où on va devoir négocier avec les sénateurs afin de garder cet objectif qui me semble tout à fait ambitieux.
Encore un mot sur l'emploi peut-être avec Gemalto, un plan de licenciement de 200 salariés mené avec l'aval de l'État qui devrait aboutir au mois d'août. Un mot là-dessus ?
Encore une fois, il faut qu'on soit à la hauteur. Tout simplement que l'État soit à la hauteur. tout à l'heure, vous me posiez la question du rôle de l'État. Il faut que l'État, que ça soit sur les problématiques qu'on a rencontrées avec Ford à Bordeaux, les problématiques qu'on a rencontrées avec Carrefour, eh bien, ou là avec Gemalto, il faut que l'État soit à la hauteur et donne des réponses aux salariés et à nos concitoyens.
L'indignation, l'espoir, on a l'impression que c'est l'ultime fonction de l'élu. Il n'y a rien à faire concrètement, à part espérer.
Moi je comprends tout à fait l'indignation des salariés. Il faut qu'effectivement on soit à la hauteur. Que les députés aillent rencontrer l'ensemble des acteurs et fassent remonter toutes les problématiques que rencontrent nos salariés et l'indignation légitime qu'ils peuvent ressentir.
Donc Gemalto, c'est fini en lanterne ?
J'ai pas dit ça.
Michel ?
Alors, date anniversaire, on l'a dit, un an, il nous reste 5 minutes, l'émission va bientôt se terminer.
Déjà ?
Oui, ça passe vite, comme une année d'ailleurs. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire vous avez une majorité absolue, donc un grand succès il y a un an, et puis finalement une réforme constitutionnelle où cette majorité va se saborder peut-être, j'en sais rien. Suppression de 30% des députés à l'horizon, 150 sièges en moins au niveau national, ce qui fait 12 à 13 en moins dans la région, 4 à 5 députés en moins dans le 13. Alors qui c'est, on vire qui? François-Michel Lambert, Mohamed Lakhila, Jean-Marc Zulesi?
Donnez des noms.
Vous voulez absolument me confronter, me mettre en difficulté vis-à-vis
mais
des...
Mais je le prends par l'humour, mais soyons... qui est en trop en fait?
Non,
il y a trop de députés,
pas,
c'est ça le message.
Dire...
Vous êtes trop nombreux, vous servez à rien.
Non, 577 députés.
Je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'efficacité de l'Assemblée nationale. On n'est pas assez efficace. Franchement, on n'est pas assez efficace. Il faut revoir la procédure parlementaire pour qu'elle soit beaucoup plus simple, beaucoup plus
lisible. Ça, on pourrait le faire à 577.
Et à côté de ça, donc il faut qu'on effectivement qu'il y ait moins de députés, mais avec beaucoup plus de moyens, qu'on puisse bien travailler avec des experts, qu'on ait regardez comment ça se passe en Allemagne, regardez comment ça se passe.
Vous dites aux États-Unis. On n'est pas assez efficace. En même temps, le gouvernement a travaillé par ordonnance sur de nombreux sujets. Vous réclamez quoi? Un 49-3 généralisé pour toutes les lois?
Est-ce que j'ai parlé de 49-3?
Non, mais.
J'ai pas parlé de 49-3.
Vous dites qu'on n'est pas assez efficace alors qu'il y avait des ordonnances. Tout le début du mandat était fait par ordonnance quasiment.
Ben oui, et alors?
Alors le débat, il est où? Quand il y a ordonnance.
Le débat, il a lieu, on échange, il y a des réunions de commission.
Il va plus vite, il a lieu, mais en mode rapide.
Bah, oui, il faut transformer notre pays, on a très peu de temps pour ça, donc effectivement, on va droit à l'efficacité, effectivement.
Mais un député peut être un obstacle, en fait. Il y a trop de députés.
C'est pas un obstacle.
Si on supprime les 30% des députés, c'est qu'il y a un souci.
Non, c'est pas qu'il y a un souci, c'est que pour le fonctionnement et la lisibilité de nos institutions, effectivement, je pense qu'il est important qu'on ait moins de députés avec plus de moyens.
Donc il y aura des plus grandes circonscriptions.
Des plus grandes circonscriptions. Je crois que le chiffre, c'est des circonscriptions à hauteur qui regrouperont entre 200 et 220 000 concitoyens. Et il faudra effectivement...
Là, il faudra tout revoir, le statut du député, le statut de l'élu, et beaucoup de choses à revoir.
Oui, donc salon ne vous suffit pas, et vous serez député peut-être candidat une deuxième fois.
Écoutez, ça fait un an que je suis élu, je travaille beaucoup, et donc on fera le bilan dans 4 ans.
Jean-Marc Zulesi, vous êtes jeune, on l'a dit en présentation.
C'est quoi être jeune?
Dites-moi. Vous êtes plus jeune que nous deux. Donc c'est ça. Donc... un autre sujet qui concerne beaucoup la région et la ville de Marseille, c'est le cannabis, la France entière, on va dire. Renaud Muselier, président LR de la région, a ouvert lieu aussi le débat sur la légalisation encadrée du cannabis. Votre avis? Je rappelle juste que le gouvernement semble pour l'heure hermétique à toute légalisation. La ministre Buzyn a affirmé hier que, je cite, qu'elle est contre la légalisation du cannabis parce qu'elle pense que c'est un produit toxique et dangereux. Est-ce que vous partagez cet avis?
Vous avez dit tout à l'heure que j'ai posé 30 questions écrites. Dans ces 30 questions écrites, il y avait justement une question sur le sujet, en particulier sur le cannabis à visée thérapeutique. Donc moi, ce que je porte, c'est ça, c'est la possibilité, effectivement, d'autoriser le cannabis, mais à visée thérapeutique. Voilà.
Michel ?
On est dans un nuage de fumée, donc pour conclure... Peut-être, façon pour revenir sur le... vous énervez un petit peu sur la fin de l'émission, mais sur ce président des riches.
Vous n'allez pas m'énerver.
Je ne vous énerve pas. Donc, Étienne Ollion, un sociologue, qui dit « Plus jeune, certes, plus féminine, renouvelée à 72%, 28% de novices en politique, dont vous, cette assemblée, mais en même temps, l'une des plus... des assemblées les plus socialement élitistes depuis la fin du 19e siècle. » Ça, c'est un sociologue du CNRS de Strasbourg qui dit ça. Vous avez ce profil, jeune, issu de l'entreprise, du secteur privé. En un mot, 30 secondes, élitiste, ce Parlement ?
Non, pas élitiste, au plus proche de nos concitoyens. Et j'ai un seul mot à vous dire, venez me rencontrer en circonscription, vous verrez, on est proche.
Proche, on ne parle pas de physique, on parle socialement. Hein.
Socialement, on est proche aussi. Écoutez, j'ai financé mes études en étant déménageur, déménagement Robert à Salon de Provence, donc je sais de quoi je parle.
Je vous remercie. Allez, on se retrouve, non pas le mois prochain, parce que c'est la fin de l'émission, on va prendre des vacances méritées. On se retrouve à la rentrée. Allez,
bonnes vacances.
Merci.